Voilà, nous sommes de retour avec notre invité Paul Van Kerbergen. Paul Van Kerbergen, gérant de la société, la coopérative agricole, pardon, Coprosin. Bonsoir.
Oui, bien bonsoir.
Vous allez bien?
Oui.
Les 6 étages, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu difficile.
Hein, non, mais ça va.
Voilà, alors on va commencer tout de suite l'interview. Donc Coprosin est une coopérative qui est née dans les années 70, du côté de Hatte, hein, c'est bien ça?
Oui, dans le parc naturel des collines et le Pays Vert.
Oui, et à l'initiative de Jean Frison.
Jean Frison qui est effectivement l'élément fédérateur de cette coopérative et qui a su motiver au départ 3-4 agriculteurs avec lui, des agriculteurs qui, comme lui, voulaient un peu voir l'agriculture autrement déjà à l'époque.
Et maintenant, il y a combien de producteurs? Parce que vous utilisez le terme de producteur, hein, si je ne m'abuse.
Oui, on a fait son petit bonhomme de chemin. De 3-4, on est maintenant à 46 producteurs, tous produits confondus. Donc, il y a autant les légumes bio, les farines, les produits laitiers frais, les fromages affinés,
la
boulangerie bio et la viande
et charcuterie.
Soit en produits fermiers ou soit en bio.
Ah, tout à fait. Et alors, ce dont on parlait un petit peu juste avant, c'est bien comprendre qu'en fait, dans les années 70, il y a une espèce, même pas qu'en Belgique, parce que je suis tombé sur un livre écrit par des Français qui s'appelle Le sacrifice des paysans, et le titre veut déjà tout dire. Mm-hmm. Et le terme lui-même paysan est assez intéressant, c'est que jusque-là, en fait, l'agriculteur, ben, quand il y avait ces bestiaux, il produisait la nourriture, la bouffe, l'orge, le blon, l'avoine, je ne sais pas, ou peu importe ce qu'il produisait, mais il produisait ça lui-même. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, dans les années 70, c'est qu'on a dit à l'agriculteur, arrête de faire comme ça.
Mais effectivement, c'est même après-guerre, on a dit aux agriculteurs de produire pour nourrir la population et que l'agro-industrie allait s'occuper elle-même de la valorisation des produits. Malheureusement, l'agriculteur est quelque part tombé dans le piège et maintenant, depuis, je dirais, 5 ans, la plupart des agriculteurs s'en rendent compte et voilà, nous, on a été un peu les précurseurs avec notre philosophie agri-sain, agriculture saine et l'ensemble des coopérateurs producteurs qui fait que ben, on a quelque part donné l'exemple. Au début, on n'a pas été pris au sérieux, on nous a pris un peu pour des fous. Je me rappelle quand on a lancé le secteur de la viande, des colis de viande, 10 ans après le début d'Agri-Sain, on a eu jusque même l'association des bouchers contre nous. Il faut savoir que à l'époque, ben, on était en plein dans la production de bœuf aux hormones et nous, on venait avec une viande dite naturelle. Et là, évidemment, au début, ça n'a pas plu à tout le monde.
Alors, petite précision, parce que là, on parlait de Coprosin et vous êtes venu avec Agri-Sain. Peut-être s'intéresser un tout petit peu à la structure en elle-même. Donc, il y a 50 producteurs de la région de Hatte qui sont coopérateurs, c'est bien ça, de Coprosin.
Voilà. Au début, ça s'appelait Agri-Sain, agriculture saine. Uh-huh. Et quand on a développé le secteur des colis de viande et puis de la boucherie, on a scindé Agri-Sain, qui aujourd'hui est le groupement des 46 producteurs, et on a créé Coprosin, qui veut dire commercialisation de produits sains, et qui à la fois s'occupe de la transformation des viandes et de la commercialisation non seulement des viandes, mais aussi de tous les autres produits des producteurs d'Agri-Sain.
Donc en fait, vous maîtrisez toute votre filière, on va dire de A à Z, donc de la production de la nourriture pour vos animaux jusqu'au magasin où sont commercialisés, on va dire, la viande et les autres produits, c'est bien ça?
Oui, effectivement, nous avons des cahiers de charges pour l'ensemble des productions.
Alors, cahiers de charges qui sont définis par vous-même, hein?
Qui ont été définis par nous et notamment contrôlés par des organismes extérieurs qui sont notamment Promac pour les produits fermiers et Certicis pour nos produits bio.
D'accord, ok. Alors, je reviens un petit peu sur Coprosin pour expliquer. C'est parce que faut bien dire qu'il y a les producteurs. Alors, vous appelez pas les agriculteurs, mais bien sûr, mais vous les appelez producteurs. Il y a donc 50 producteurs qui ont leur cahier de charge, donc qui s'occupent de viande, de fromage, sur les maraîchers, etc. Mais vous avez aussi des salariés au sein de Coprosin.
Ah oui, donc...
Mais il ne faut pas confondre les deux, parce qu'il y a des gens qui vont penser que les salariés de Coprosin sont coopérateurs alors que ça n'a rien à voir.
Non, c'est deux choses bien différentes.
On est d'accord.
Les producteurs, ce sont effectivement les agriculteurs. Nous défendons des petites fermes familiales mixtes. Mixte veut dire qu'il y a obligatoirement chez nous de la culture et de l'élevage sur la même ferme. Et ces 46 producteurs fournissent leurs produits à la coopérative, mais pour faire tourner la coopérative au niveau du secteur de la viande, la transformation, les bouchers, tout le personnel de la gestion, de l'administration et la commercialisation qui représente plus de 25 personnes, on est au total 48 salariés en plus des 46 producteurs.
D'accord, donc les 46 salariés, il y a des gens qui transforment la viande, qui emballent et qui sont aussi sur les marchés.
Oui.
Sur les différents marchés, notamment à Bruxelles, mais pas que.
Oui, oui, on fait 20 marchés publics par semaine, du mardi au dimanche.
Quand vous dites marché public, vous arrivez avec le camion que vous déployez, c'est
voilà,
bien ça.
Voilà, qu'on ouvre, il y a un comptoir réfrigéré où on vend tous nos produits frais. Et je dirais, on est principalement sur le Hainaut et Bruxelles.
D'accord, ok. Et alors, le cahier de charge, vous dites, il est très précis. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment du bio ? Parce que je sais que vous vendez de la viande, on va dire, plutôt paysanne, et il y a de la viande bio, et c'est pas tout à fait la même chose. Alors, quelle est la différence ?
On a les deux types de viande que l'on ne vend pas sur le même point de vente. Donc, notamment sur nos marchés, nous avons 20 marchés par semaine, dont 6 sont exclusivement réservés avec des produits 100% bio. Dans nos 46 producteurs, nous avons des producteurs qui sont en ferme familiale paysanne et d'autres qui sont en ferme agriculture biologique 100%. Et donc notre souci, c'est de maintenir ces petites activités, ces petites fermes familiales en activité et pouvoir que eux puissent vivre d'une petite superficie, pas comme aujourd'hui
où on est obligé de tout le temps s'agrandir,
de toujours s'agrandir, toujours investir pour ne pas vraiment avoir une rentabilité au bout de l'année.
Et alors, donc, ça fait 50... Alors, quand on dit 50 producteurs, ça veut dire que c'est grosso modo, il y a 50 fermes familiales qui vivent par pour Coprocin, en fait.
Oui, et je dirais même que si, pour l'une ou l'autre raison, Coprocin ne devait plus exister aujourd'hui, il y aurait pratiquement 50% de ces fermes qui disparaîtraient parce qu'elles n'auraient plus la possibilité d'écouler à un juste prix leurs produits dans notre circuit commercial.
Et donc, je crois que c'est chaque année, il y a des réunions entre tous les producteurs coopérateurs pour déterminer un petit peu ce qu'on va fournir et quelle production on peut donner suivant ce qu'il y a l'année prochaine. Enfin, je ne sais pas comment ça se décide, ça.
Effectivement, bon, aujourd'hui, réunir les 46 producteurs...
Je serai précis dans les questions. Oui, hein, ça...
Ce n'est pas évident. Donc, depuis une quinzaine d'années, on réunit les producteurs par groupement de produits. Donc, on réunit les producteurs de porc. Une autre fois, c'est les producteurs de produits laitiers ou les maraîchers. Et lors de ces réunions, il y a trois points qui sont discutés. Un, c'est le cahier de charge, parce que d'année en année, on resserre le cahier de charge.
Deux, quand vous dites resserrer, c'est-à-dire ?
Mais donner quelques contraintes supplémentaires.
Vous voilà. Aussi, vous donnez des contraintes supplémentaires.
Mais oui, parce que bon, il y a la concurrence qui avance, et d'accord. Puis on veut avancer avec ce qu'il y a de neuf sur le marché, notamment depuis quelques années, on développe parmi nos producteurs l'autonomie alimentaire dans nos fermes pour que le producteur soit de plus en plus autonome sur sa propre ferme et ne plus devoir faire appel à des aliments extérieurs.
Et est-ce que, je me posais donc, en fait, donc si j'ai du... Je sais pas, moi, de la viande, donc je fais des ovins, des moutons, je fournis de la viande de moutons. En fait, là, je dois cultiver les céréales pour nourrir les moutons.
C'est ça. Les moutons, c'est assez bien nourri à l'herbe, au foin, mais il y a quelques céréales complémentaires. Mm-hmm. Et donc, ça, on impose de plus en plus que ce soit produit à la ferme ou dans le groupement des producteurs.
Oui, parce que je me demandais, mais peut-être que les agriculteurs, comme on faisait avant, ils s'échangent entre un petit peu, peut-être éventuellement, leur production, dans le sens où moi j'ai un peu plus de nourriture pour bétail que cette année, je peux t'en vendre, etc. Est-ce qu'il y a des mouvements, est-ce qu'il y a des ventes entre les agriculteurs eux-mêmes de la coopérative ?
Il y a de cela, mais ce n'est pas uniquement, c'est notamment les protéines. Il faut savoir qu'après la guerre, on a dit aux producteurs ne produisez plus de protéines, c'est-à-dire le lupin, le pois protéagineux et tout ça.
Ils ont de la nourriture pour le bétail.
Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est le soja australien, américain, brésilien qui inonde le marché européen et qui rentrent grosso modo à 20% dans la portion alimentaire du bétail. Nous avons des producteurs qui sont complètement en autonomie alimentaire, y compris les protéines qui sont fabriquées à la ferme. Et ça, c'est important.
Oh, d'accord. Et ça y est, j'ai perdu le... Oui, voilà. Donc, il y a 50 producteurs, parce que j'ai dit qu'on avait... Je vous en avais fait part. On parle un petit peu de chiffres. Ça représente, grosso modo, un chiffre d'affaires de combien, ça, pour les 50 producteurs à l'année, Coprocin fait combien, plus ou moins de chiffre d'affaires? Vous n'êtes pas obligé de répondre
à
ce genre de questions.
On n'a rien à cacher.
Attendez les questions. Il y a encore quelques-unes.
On fait un chiffre d'affaires de 7 500 000 euros par an.
D'accord, 700.
Ce qui est quand même conséquent.
Ah, je n'entends. Et avec un bénéfice plus ou moins, vous allez me dire, ça varie d'année en année, suivant les circonstances.
Ben, grosso modo, on est à 10 000 euros de bénéfice par année. Et ce bénéfice sont automatiquement réinjectés dans la coopérative en termes d'investissement. Il n'y a pas de dividende qui est rétribué à la coopérative, parce que justement, c'est dans notre cahier de charge également.
Alors, justement, dans votre cahier de charge, on sait que, alors, pour nos auditeurs, il y a la PAC, la politique agricole commune. Alors, avec le Brexit, tout ça, ça va peut-être un petit peu changer. Il y a quelques années, si je ne m'abuse, il y a 3 ans, les règles de la PAC ont été encore changées. Mais est-ce que vos agriculteurs, individuellement, alors, via la coopérative, est-ce que vous pouvez aller chercher des subsides? Parce que dans la PAC, il y a des subsides qui sont accessibles pour faire du bio ou ce genre de choses.
Oui, mais évidemment, s'ils peuvent en profiter, ils en profitent.
Bah oui, pourquoi se gêner?
Mais quelque part, ce n'est pas tout à fait logique. Comment fonctionne aujourd'hui le GROP avec l'agriculture? L'agriculteur n'est pas payé suffisamment pour le produit qu'il produit. Et pour compenser cela, c'est l'Europe qui lui offre, entre guillemets, des subsides pour compenser. Quelque part, ne serait-ce pas plus logique de payer plus le produit directement au producteur et ne plus faire appel à, du moins pas tout, la totalité, mais autant de subsides européens? C'est une question à se poser niveau global, quoi.
Mais justement, c'est parce que je pense qu'évoquer la PAC, c'est quand même essentiel, parce qu'on disait que dans les années 70, même, vous disiez après la guerre, et c'est clair que dans le livre que j'évoquais, Le sacrifice des paysans, donc c'est de Pierre Bitoun et de Yves Dupont, ben, la PAC était un des instruments qui a fait qu'en fait, on a industrialisé le monde agricole, donc je trouvais assez important. Et un des chroniqueurs, c'est dommage qu'il soit pas là, parce que justement, il est un petit peu, il s'y connaît au niveau de la PAC, mais donc, s'il y a moyen d'aller chercher de l'argent, pourquoi pas? En même temps, il y a quelque chose d'illogique dans la PAC. Et, oui. Et je me demandais, vis-à-vis de la PAC, quand Jean Frison, qui est à l'initiative d'Agrisain à l'époque, et maintenant qui est devenu Coprosain, quand il a vu la machine débarquer, et peut-être jusqu'il n'y a pas longtemps, parce que vous disiez que maintenant c'est en train de changer, les mentalités évoluent depuis quelques années, mais on n'a pas l'impression d'être le village gaulois. Vraiment, à l'Astérix, il y a ce monde industriel agroalimentaire qui arrive, et là, on se défend en Coprosain, les gars, on est 50, et devant, ils sont des milliers, avec des milliards d'euros.
Oui, ben... On a toujours un peu fait l'exception depuis 40 ans. Beaucoup de personnes, d'agriculteurs, de coopératives naissantes sont venues voir chez nous, avoir des informations, comment fonctionner. Mais en Belgique, quelque part, l'agriculteur reste fort individualiste. Et les mettre en association ou en coopérative, c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident. On a réussi, grâce, je dirais, à la ténacité de Jean Frison, de pouvoir fédérer un groupement de producteurs. Mais malgré tout, ces dernières années où l'agriculteur s'aperçoit qu'il est réellement maintenant devant un mur, il y a un changement de mentalité, surtout dans les jeunes qui sont dans l'espoir de reprendre la ferme familiale des parents. Il se dit, si on continue dans la même optique, on va se casser la figure. Donc, comment voir l'agriculture autrement? Que produire différemment pour pouvoir s'en sortir sur des petites superficies?
Alors justement, dans ce cadre-là, puisque l'émission « On est des pigeons », voilà, nous y sommes, troisième lundi du mois, je me permets de le rappeler, ce qui nous intéresse, c'est l'économie. Et là-dedans, il y a un concept qui est très important. Là, c'est un peu pour les auditeurs, c'est que, comme on le disait, que Paul van Kerbergen, notre invité, mon invité, c'est que Coprosain maîtrise tout de A à Z. Donc la production d'aliments d'animaux jusqu'à la distribution, la commercialisation des produits.
Oui.
Et c'est ce qu'on appelle en fait garder toute la valeur ajoutée.
Oui, tout à fait.
Et je me demandais, là on va parler un petit peu plus global, le nouveau ministre wallon de l'agriculture, sortant un petit peu de Bruxelles quand même si la plupart des auditeurs sont bruxellois, sortant un petit peu de Bruxelles, c'est qu'on est en train de mettre en place en Wallonie depuis quelques années des halls relais agricoles, qui sont des lieux, donc d'après la définition donnée sur le site de la région Wallonne, qui sont des lieux où on valorise, on transforme, on stocke, on conditionne, on commercialise, on peut tout faire séparément ou tout combiner,
oui.
Des produits agricoles. C'est à l'initiative de communes ou d'entreprises d'économie sociale. Et j'ai vu ça aujourd'hui, en fait, vraiment, je me dis, oh, le relais agricole, que Coprosain, en fait, était partie prenante d'un de ces 18 projets.
Oui.
C'est bien ça?
On a introduit un dossier de commercialisation de produits fermiers, et notamment avec un point de vente sur Tournai.
Donc ça, là-dedans, c'est juste un point de vente. Il n'y a pas d'autre.
Un point de vente, c'est un dossier en deux volets. Le premier, c'est le point de vente sur Tournai. Le deuxième, c'est un nouvel atelier de transformation de viande, préparation et de plats préparés. On estime que c'est un secteur qui doit être valorisé au sein de notre coopérative pour répondre à une demande notamment de jeunes couples qui n'ont pas nécessairement le temps de faire tous les jours.
Oui, c'est ce que je me disais, parce que donc en fait, année après année, vous étoffez de plus en plus l'offre.
Oui.
Ça fait partie un petit peu de, il faut ouvrir l'éventail et un petit peu...
Il faut continuer à aller de l'avant, il faut innover, je crois que ça fait partie aussi, même si on veut garder une origine de produits de terroir, c'est pas pour ça qu'on peut pas innover aussi.
Mais justement, est-ce qu'il y a des gens dans Coprocin qui sont chargés de penser à l'innovation? Alors vous allez me dire, c'est vous et vous seul, ou alors il y a quelqu'un qui est payé même à mi-temps ou qui pense un petit peu à innover, comment on peut faire pour... justement pour faire face à une concurrence.
Oui, nous avons au sein des producteurs quelques producteurs qui font partie du conseil d'administration. On se réunit une fois par trimestre.
Donc c'est le conseil d'administration.
Il y a quelques producteurs qui sont un peu plus motivés ou alertes aux nouveautés, avec lesquels on discute assez bien. On va voir des initiatives en France et tout ça, ça nous donne des idées. Et donc on n'est pas en manque d'idées pour faire évoluer la coopérative.
Et justement, alors vous allez prendre des idées ailleurs et vous disiez des idées à d'autres. Donc est-ce qu'on peut espérer voir à l'avenir, même si vous disiez que en Belgique on est plutôt individualiste, les agriculteurs sont plutôt individualistes, est-ce que vous pensez que d'ici 10-15 ans pourrait émerger 2, 3, 10, 20 coprocins?
C'est tout l'espoir qu'on peut y mettre. Je crois que depuis 5 ans il y a un réel changement dans la mentalité de pas mal de producteurs qui voient les choses autrement, et donc aujourd'hui on sent que la structure d'organisation en collectivité, en coopérative ou en association se met tout doucement en place dans pas mal de régions, notamment en Wallonie et dans le Brabant wallon et un peu sur Bruxelles aussi.
Vous êtes soutenu par les pouvoirs publics dans ces initiatives ou
Il y a longtemps qu'on n'a plus eu droit à des subsides, mais ici on a introduit un dossier au relais qui est subsidié par la région wallonne, et donc dans ce cadre-là, effectivement, ils nous aident quand même.
Alors quelques chiffres, ça vous allez pouvoir les confirmer, parce que là, à chaque fois que j'essaie de trouver ces chiffres, il faut quand même, Coprocin, c'est 50 producteurs, c'est bien ça. Alors, avec tout le respect que j'ai pour vous, c'est quand même, on va dire, une goutte d'eau. Sans vouloir, c'est une goutte d'eau. Il y a combien d'agriculteurs en Belgique? On est à un peu plus de 35 000, c'est ça?
Oui, tout à fait, mais enfin bon.
Mais bravo, parce que je veux dire, au début, c'était quand même 3 contre tout le monde.
Oui, tout à fait, parce qu'on a été souvent pris pour des petits rigolos. Et je crois qu'avec les années avançant et les problématiques un peu des crises alimentaires, la dioxine et tout ça, a fait que tout doucement, on est maintenant pris au sérieux. On a été pendant des années centre de référence au niveau des coopératives en Wallonie, donc c'est quand même une belle image de reconnaissance.
Alors, au niveau des coopératives en général ou des coopératives agricoles? Vraiment, le modèle de coopérative en général?
Non, coopérative agricole.
Agricole, d'accord. Oui. D'accord, donc c'était 35 000 agriculteurs, et alors il y en avait quasi 120 000 en 1980, donc il y a 35 ans, et en fait, c'est le nombre d'agriculteurs en Belgique a... c'est divisé par 3.
Oui.
Alors, j'ai aussi lu que 55% des agriculteurs seront pensionnés dans les 10 années et que chaque jour, c'est une ferme qui disparaît et 3 agriculteurs.
Oui. Je dirais que...
Mais pas Coprocin, là non.
Non, non. On a une liste d'attente de producteurs qui voudraient intégrer notre coopérative.
Justement, j'allais dire, comment je fais pour entrer dans Coprocin si j'ai envie d'y entrer?
Mais je dirais, à côté de ça, on a aujourd'hui des personnes qui ne sont pas nécessairement issues du monde agricole, qui veulent s'investir dans une production, que ça peut être du maraîchage, ça peut être des produits laitiers. Et c'est un phénomène qu'on avait déjà vu en France il y a une dizaine d'années, qui arrive tout doucement en Belgique maintenant.
Comme par exemple, parce que c'est vrai que j'habite Bruxelles, je suis plutôt sur XL, Uccle, donc c'est plutôt des endroits où il y a beaucoup plus d'offres bio. Je vais dire, peut-être que la population correspond plus à cette offre-là. Mais il y a Farms ou Ferme qui est en train d'émerger, et j'ai vu que là, il y avait de la viande Coprocin qui était vendue. Et c'est quelque chose qui se fait depuis longtemps, ou de plus en plus vous allez aller vers des petits accords avec des coopérateurs qui, eux, ne sont pas du tout dans la production, mais seront plutôt dans la distribution, par exemple.
Disons qu'on a toujours essayé de garder le contact avec le consommateur, ce qui veut dire une vente directe de nos produits envers le producteur. On a ce qu'on appelle notre secteur grossiste, qui représente 12% de notre chiffre d'affaires, qui en fait n'est pas vendu par nous directement aux consommateurs. C'est-à-dire qu'on produit notamment dans le secteur des viandes biologiques, des préparations de viande hachée et des charcuteries bio, que l'on fournit à des magasins bio, notamment ici sur Bruxelles, et qui, eux, s'occupent de la commercialisation. Et c'est un secteur que on n'a pas un commercial chez nous pour aller démarcher, on répond simplement à des demandes qui nous sont faites.
Ah, c'est eux qui viennent vous demander,
oui,
en fait.
Oui.
Ah oui, d'accord. Mais donc, je ne vais pas dire que dans ce cas-là, parce que vous passez d'intermédiaire, mais quelque part, oui, ils font appel à un intermédiaire. Ils ne sont pas dans la même logique que vous.
Voilà, c'est ça. Et bon, c'est pour ça qu'on ne veut pas le développer nous-mêmes. On répond à quelques demandes, mais ce n'est pas un secteur qu'on veut développer. On veut plutôt développer un point de vente supplémentaire comme le magasin de tournée ou un marché supplémentaire auquel nous avons notre propre personnel de la coopérative qui est en contact avec le consommateur.
Maintenant, on approche de la fin de l'émission déjà. On en a déjà quand même parlé, mais j'aimerais évoquer le futur. Donc, de manière vraiment concrète, s'il y a trois éléments que Coprocin, sur lesquels Coprocin veut appuyer, veut mettre en évidence, on va dire dans les cinq prochaines années, ça va être quoi ?
Remettre l'accent...
Dans la coopérative même.
Hein. Oui, chez nous, remettre l'accent... au niveau de la communication sur l'origine des produits, avec montrer la photo du producteur, avoir son expérience à lui.
Vis-à-vis du consommateur.
Vis-à-vis du consommateur. Et on est occupé d'étudier avec des stagiaires en communication le fait de faire des petits montages vidéo par producteur que l'on pourrait projeter dans nos points de vente. On estime que c'est important. Et alors, deuxièmement, remettre en avant ce qui s'appelle les fermes ouvertes.
C'est-à-dire
chaque année, on changera d'une ou deux fermes dans nos producteurs qui participeront à un week-end de ferme ouverte où on invitera les consommateurs à venir voir comment ça se passe, à dialoguer avec le producteur pour qu'il y ait une espèce de lien qui se passe entre les deux. Et ça, c'est beaucoup plus enrichissant pour le consommateur, mais également pour le producteur parce qu'il sait que, notamment, tiens, le client untel vient chercher mon beurre parce qu'il m'a rencontré un jour lors d'une porte ouverte. On entend ce genre de remarques, il y a ce lien quelque part qui se crée et c'est important.
D'accord, et alors, et vous vous voyez où dans 5 ans, toujours à Coprocin ?
Oui, je crois qu'il faut aider la coopérative à
évoluer. Ah non, mais peut-être qu'au bout d'un moment, sans vouloir, on peut se dire, je peux transmettre le flambeau et il y a aussi la préparation de la relève qui doit se faire.
Oui, ça doit se préparer parce que c'est pas une mince affaire. La coopérative, il faut savoir qu'elle tourne quand même 7 jours sur 7. Ouais. Du lundi au vendredi, c'est tout l'atelier de production, viande, préparation des charcuteries, des plats préparés. Et là, tout ce qui est commercialisation, c'est du mardi au dimanche. Donc, les 7 jours sur 7, l'activité de la coopérative, elle fonctionne. Quoi.
Et alors, vraiment, là, la question, une dernière question et puis on prendra congé. Là, c'était vraiment concrètement dans les 5 ans, mais allez, si vous pouviez rêver, juste au moment où vous retransmettez le flambeau, vous espérez que ça soit quoi, Coprocin ? Qu'est-ce qui se passe ? Allez, on va dire dans, je ne sais pas quand ça sera votre pension, on va dire dans 15-20 ans, vous regardez en arrière, et ce serait quoi que vous aimeriez regarder ?
Ah, que les producteurs se prennent peut-être un peu plus en charge au niveau de l'ensemble de la coopérative. Aujourd'hui, les producteurs sont impliqués dans leur production chez eux à la ferme. Et mon souhait, c'est que chaque producteur puisse participer, par exemple, 12 heures par mois, mais de prestations réelles au sein de la coopérative et non pas chez eux.
Il n'y a pas moyen de mettre ça dans le cahier de charge ? Mais peut-être qu'ils vont râler.
Ils vont râler, à mon avis, au début. Mais ça, c'est un
on
de mes espoirs.
On peut commencer par une heure.
Oui, voilà. Mais c'est un de mes espoirs, notamment, que chacun puisse participer.
Et qu'il fasse vivre la coopérative.
Oui. Et qu'il puisse, par ce biais-là, notamment, s'il participe à un point de vente, c'est pas nécessairement à la vente, mais ça peut être à l'organisation, à la mise en place et tout ça, mais qu'il puisse, par ce biais, avoir un dialogue qui se fasse avec les consommateurs, les consomme-acteurs qui viennent chez nous.
Voilà, Paul Van Kerbergen, gérant de la coopérative agricole Coprocin, je vous remercie beaucoup.
Merci à vous aussi.
Voilà donc, l'émission va se terminer. Là, je vais me permettre de vous donner rendez-vous. Eh bien, ça sera le 19 juin. 19 juin, oui, c'est bien ça. Troisième lundi du mois, le 19 juin 2017, 19h-20h. Nous parlerons normalement, c'est à confirmer, de dette publique. Et sinon, je vais prendre congé de vous. J'oubliais, c'est le mois de l'alimentation sur Radio Panique, donc jusqu'au 31, vous aurez tous les jours, peut-être pas toutes les heures, mais tous les jours, vous aurez des émissions, que ça soit du débat, que ça soit de la musique, qui seront dédiées à l'alimentation. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Ils sont là pour nous suivre, ils vont nous succéder.
Onde de choc.
Onde de choc sur Panique.